Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Mardi 29 avril, bonjour à toutes et à tous. Présent midi en direct, nous sommes très heureux de vous accompagner pour votre pause déjeuner. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien, je vous remercie.
Voilà, comme
Exactement,
les auditeurs le constatent, vous n'êtes pas en studio aujourd'hui, mais vous êtes du côté de Tarbes. Dans un instant, on va détailler l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Avec grand plaisir, plusieurs rendez-vous à noter. Ça commence dès ce soir avec un rendez-vous important à la cathédrale de Tarbes à 18h. Et puis, il y en a comme ça jusqu'à dimanche, des rendez-vous
voilà,
importants.
Des nombreux rendez-vous. On terminera en parlant de Notre-Dame de Pietat avec un pèlerinage organisé ce week-end. On détaillera tout ça avec vous dans quelques instants. Et puis, on ira du côté de Bourg-de-Bigorre puisque vous allez nous faire visiter une maison où vivent des personnes âgées qui sont encore en autonomie. Cette maison, c'est la Marpa.
Exactement, c'est un modèle de vie fort intéressant que je vous propose de découvrir. C'est un reportage que j'ai pu faire à l'occasion d'une des visites pastorales de Mgr Mika dans le territoire des Baronnies. Et donc à cette occasion, j'ai rencontré la directrice de cet établissement, un peu hors du commun, et vous en dire, il y a beaucoup de joie.
On va l'entendre dans quelques minutes et puis on fera également un crochet par la gare de Lourdes, on va découvrir son histoire. Une histoire, vous allez voir, étonnante. C'est Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes qui sera avec nous dans quelques instants. Mais pour le moment, à 12h02, voici l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres qui seront développés à 12h30. Ces titres sont présentés par Émile Boudjema de l'École de Journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous dans l'actualité ce matin. Bientôt, la fin des travaux pour la grande rue Saint-Michel. Un nouveau système d'aménagement et une mobilité douce sont les principales choses prévues. Plus de 17 500 m² sont repensés. Le principal objectif est de réduire le trafic motorisé. La fin des travaux est prévue à la fin de l'année. L'avenue Étienne Billière commence elle aussi sa transformation depuis hier. Les principales répercussions seront des places de stationnement supprimées jusqu'au 25 juillet. Les premiers marquages ont déjà été tracés et le coût du chantier s'élèvera en tout à 1,5 million d'euros. Encore de nouveaux achats pour Airbus. L'entreprise annonce hier avoir racheté 5 usines à un sous-traitant américain. La compagnie Spirit AeroSystems, dont les activités sont déficitaires, va verser 439 millions de dollars à l'avionneur européen. Airbus s'engage néanmoins à fournir à Spirit AeroSystems des lignes de crédit sans intérêt d'un montant total de 200 millions de dollars. Un appel à la chorale dans le Lot, la chef de chœur Sandrine Antunes lance un appel aux chanteurs de tout poil pour la formation d'une chorale de 15 000 voix avec une prestation en mars 2026. Vous pouvez vous inscrire, que vous soyez choriste débutant ou confirmé, sur le site www.500voix.com. Toujours dans le Lot, un festival Escambis fête ses 10 ans. Il se tiendra au pays Saint-Céré les 2, 3 et 4 mai. Tout public confondu peut se retrouver dans les domaines de la musique, le chant, la danse, l'artisanat, le sport, la littérature ou encore le théâtre. Samedi 3 mai, la communauté des Clarisses à Toulouse propose à toutes les femmes âgées de 15 à 35 ans une journée pour découvrir la spiritualité Sainte-Claire. Cette journée sera également l'occasion de découvrir la vie contemplative de la communauté. Elle se déroulera de 9h à 17h30 au monastère des Clarisses de Toulouse.
Merci Mine Boudjema. On vous retrouve dans moins d'une vingtaine de minutes pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Présence.
Merci d'avoir choisi Radio Présence. Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Rebonjour Gilles et bonjour à tous.
Vous êtes toujours en duplex depuis Tarbes pour évoquer l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. On va l'entendre, un agenda assez chargé. On va commencer avec l'actualité immédiate puisque ce soir à 18h, il y a une messe à la cathédrale de Tarbes.
Oui, une messe qui sera présidée par Mgr Mika, notre évêque, pour le repos de l'âme et à la mémoire du pape François. Rendez-vous donc à 18h en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. C'est une messe à laquelle évidemment tous les diocésains sont invités. Et il y aura probablement beaucoup de prêtres du diocèse puisque aujourd'hui se déroule la journée du presbytérium à la maison Saint-Paul à Tarbes, la maison diocésaine. Donc à l'issue de cette journée, eh bien, les prêtres présents à la maison Saint-Paul se dirigeront vers la cathédrale pour cette messe à 18h.
On poursuit avec ce 1er mai et les catéchistes qui seront en pèlerinage.
Oui, alors d'abord, je rappelle quand même que le 1er mai, nous fêtons Saint-Joseph Travailleur, c'est important de le dire. C'est amusant que le jour où nous fêtons Saint-Joseph Travailleur, nous sommes invités à ne pas travailler. En tous les cas, voilà, c'est une journée de repos pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Et les catéchistes du diocèse sont invités à se retrouver en pèlerinage annuel. C'est la 5e édition du pèlerinage des catéchistes du diocèse, qui vont se rendre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour une journée de rencontres, d'échanges, peut-être un peu de travail, mais surtout de prière. C'est vraiment un pèlerinage et les catéchistes seront invités à faire le chemin du jubilé. Et puis, il y aura aussi, là, bien sûr, au cœur de cette journée, la messe célébrée par Monseigneur Mika à 11h15 en la basilique du Rosaire. Monseigneur Mika qui passera un moment de cette journée avec les catéchistes du diocèse. Voilà donc pour ce rendez-vous.
Voilà, 1er mai. Et le lendemain, le 2 mai, il y a une veillée de prière.
Une veillée de prière et d'adoration proposée par les sœurs Marie-Saint-Fray à Tarbes à 20h15 dans la chapelle de leur maison, la chapelle Marie-Saint-Fray. C'est une veillée de prière qui est ouverte à tous, veillée de prière et d'adoration donc proposée par les sœurs. C'est pas la première édition et c'est pas la dernière puisqu'il y en aura désormais une par mois et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc rendez-vous à 20h15 ce 2 mai, ce vendredi 2 mai dans la chapelle des sœurs de Saint-Fray avec la communauté. Il s'agit tout simplement de prier ensemble.
Voilà, on poursuit avec une rencontre qui est prévue au centre Assomption. Cette rencontre, c'est ce 3 mai.
Ce 3 mai avec pour thème l'évangile éducation à la liberté humaine. C'est avec Sœur Thérèse, c'est au centre Assomption, vous l'avez dit. Gilles, ça commence à 14h30, de 14h30 à 16h. Rendez-vous ce 3 mai au centre Assomption, c'est avenue Antoine Béguer à Lourdes. Pas d'inscription, participation libre. Donc viens qui veut pour ce temps de réflexion et de partage autour de l'évangile.
On reste à Lourdes avec ce week-end des confirmations.
Ah oui, ça commence la saison des confirmations, comme je dis quelquefois. Et ça commence à Lourdes, effectivement, puisque samedi 3 mai, eh bien, les jeunes des collèges Peyramale, Saint-Joseph et Sarsan, deux établissements lourdais, recevront le sacrement de la confirmation en l'église du Sacré-Cœur, l'église paroissiale de Lourdes, à 18h. Voilà, alors on prie vraiment pour ces jeunes hein, qui vont recevoir ce magnifique sacrement, qui vont recevoir l'Esprit-Saint. On prie avec eux et pour eux.
Voilà, vous l'avez dit, hein, la période des confirmations est donc lancée. On poursuit avec un concert qui est proposé ce dimanche.
Ce dimanche au sanctuaire Notre-Dame de Garaison à Montléon-Magnoac, c'est un concert proposé par les chanteurs de la cathédrale de Lyon, la maîtrise de la cathédrale de Lyon, j'avais perdu mon mot. C'est à 17h30 dans la chapelle du sanctuaire Notre-Dame de Garaison.
Et enfin, on termine cet agenda avec la grosse actualité du week-end, c'est ce pèlerinage à Notre-Dame de Pietate, c'est une des étapes hein, de l'année jubilaire dans le diocèse. On va peut-être préciser que Notre-Dame de Pietate, c'est pas très loin de Tarbes pour les auditeurs qui nous écoutent en région.
Effectivement, le sanctuaire Notre-Dame de Pietate, c'est à Barbazan-des-Battes. C'est à une quinzaine de minutes en voiture depuis de Tarbes, en direction de Tournailles. Et nous avons effectivement, nous les diocésains de Tarbes et Lourdes, rendez-vous ce dimanche 4 mai au sanctuaire Notre-Dame de Pietate avec vraiment toute une journée de pèlerinage. D'abord, ça va commencer le matin avec trois marches qui sont organisées vraiment pour cheminer ensemble vers le sanctuaire. Alors trois marches parce qu'il y a trois itinéraires. J'allais dire trois styles de marche. Et les départs sont possibles depuis Mascaras, avec un rendez-vous à 9h30 devant l'église de Mascaras. Là, c'est un parcours de 5 km, plutôt facile et adapté aux familles. Un autre départ depuis la cathédrale de Tarbes. Là, rendez-vous à 8h sur le parvis de la cathédrale. C'est un parcours un peu plus difficile, plus long en tous les cas, 9 km, peut-être un peu moins adapté aux familles avec des petits. Et puis un troisième départ depuis Séméac à 9h45 devant l'église de Séméac. Là encore, c'est un parcours de 5 km, plus facile et que vous pouvez aussi faire en famille avec des enfants, ou si vous avez un petit peu plus de difficultés à marcher, c'est un parcours qui est adapté. L'arrivée au sanctuaire vers 11h30, midi, le passage dans la chapelle pour chacun des pèlerins avec un accueil festif, et puis ensuite le temps du pique-nique, chacun apporte son pique-nique, apéritif et café offert par l'équipe d'organisation, et puis l'après-midi, il y aura des propositions spirituelles de 13h30 à 14h30, soit le chapelet, soit une découverte de l'histoire du sanctuaire, et puis des activités qui seront pour les enfants. La messe de clôture sera célébrée à 15h par Mgr Mika. Et puis à l'issue de cette messe, eh bien, ce sera le temps d'envoi. Donc vraiment une journée pour tous, avec des propositions adaptées un petit peu à tous les âges. L'objectif est vraiment de se retrouver en diocèse, dans ce lieu. Mgr Mika a souhaité que les catholiques du diocèse de Tarbes-Lourdes puissent vivre le jubilé de l'espérance en se rendant en pèlerinage dans plusieurs sanctuaires mariaux des Hautes-Pyrénées. Vous savez que la Bigorre et les Quatre-Vallées sont vraiment des terres mariales. La Vierge Marie est apparue dans différents lieux, à différentes époques. Cette histoire a marqué en profondeur, on peut dire, le cœur de notre diocèse, et c'est cela que nous sommes invités à vivre là, en cette année jubilaire, lier cette histoire mariale à ce jubilé de l'espérance, et voilà pourquoi nous sommes invités à nous rassembler pour célébrer la Vierge Marie, pour prier, pour être vraiment dans chacun de ces lieux pèlerins d'espérance. Alors, le rendez-vous à Notre-Dame de Piétat est le premier d'une longue série, puisque nous nous retrouverons ensuite au sanctuaire Notre-Dame de Garaison le 5 juillet, puis au sanctuaire Notre-Dame de Poëlin à Arins-Marsous le 27 juillet, à Eas le 6 septembre, et puis au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 18 au 21 octobre. Donc chacune de ces étapes dans un sanctuaire marial est liée aux autres, puisque c'est l'ensemble qui fait de nous vraiment des pèlerins d'espérance dans le diocèse de Tarbes-Lourdes.
Voilà, donc c'est ce week-end, hein, première étape donc de cette année jubilaire, donc ce sanctuaire de Notre-Dame de Piétat, pas très loin de Tarbes. Quel départ vous avez choisi, Anne-Rose, le 5 km, le 9 km?
Je ne me suis pas encore décidé, mais je suis capable de faire le 9, hein.
Je n'en doute pas. Aller-retour.
Non, faut pas exagérer quand même, mais je ne sais pas, je me suis pas décidé encore.
Bon, ben vous avez encore quelques jours pour réfléchir.
C'est-à-dire que j'ai un petit peu de matériel de radio à transporter, puisque ouais. Radio Présence se mobilise quand même.
Exactement. C'est dimanche, donc ça se passe à Notre-Dame de Piétat, pas très loin de Tarbes, évidemment, hein, tous les diocésains se sont invités, hein, à cette journée. C'est pas forcément nécessaire de s'inscrire.
Il n'y a pas d'inscription et vraiment chacun est invité. Alors quelques personnes m'ont appelé en disant « mais moi je suis engagée dans ma paroisse le matin, je ne pourrais pas faire la marche. Est-ce que j'ai le droit de venir après ?» Mais bien sûr, vous avez le droit de venir à partir du moment du pique-nique, vous avez le droit de venir pour les propositions spirituelles l'après-midi, vous avez le droit de venir seulement pour la messe à 15h. C'est bien si on peut vivre l'ensemble de la journée, mais si vous ne pouvez pas être à un moment ou à un autre, vous êtes quand même invité à passer, à découvrir l'histoire de ce sanctuaire. C'est vraiment l'histoire du diocèse, c'est pas que l'histoire d'un sanctuaire dans un coin, c'est l'histoire du diocèse de Tarbes-et-Lourdes qui rayonne aussi dans ce sanctuaire marial. Donc vraiment, venez, voyez.
Voilà, venez. Voilà, c'est donc dimanche à côté de Tarbes, Notre-Dame de Piétat. Un grand merci, Anne-Rose Jankovic. Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, de catholique65.fr. Et au clocher, pour suivre l'actualité du diocèse.
Exactement, au clocher, qui est mise à jour avec les actualités du diocèse au moins deux fois par semaine. Et je peux vous dire qu'il y en a des activités, des actualités, des événements, des rendez-vous. Donc n'hésitez pas à télécharger cette appli sur votre smartphone. Elle est gratuite et très pratique.
Dans un instant, on part avec vous à Bourg-de-Bigorre en reportage avec Dominique Mas, la responsable de la MARPA, cette maison où vivent des personnes âgées en autonomie.
Exactement. Vous savez comment ça fonctionne, la MARPA ?
Ben, vous allez m'expliquer ça dans quelques minutes.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous n'avez qu'à écouter le reportage. En tous les cas, on part dans les baronnies, bon. Effectivement.
Très bien. Juste avant d'aller dans les baronnies, dans quelques instants, on s'arrête à la gare de Lourdes pour découvrir son histoire avec Laurent de l'Office de Tourisme. Et moi, je vous souhaite un très bon appétit, Anne-Rose Jankovic. Un grand merci.
Merci, Gilles. À bientôt.
On poursuit en musique avec Patrick Fury et Florent Pagny en duo.
Faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il
faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu. J'y vais comme un tout premier regard. Le début de mon histoire et dans chacun de nos pas. Chacun de nous pas.
Notre destination aujourd'hui dans ces balades en pays de Lourdes, c'est la gare de Lourdes avec Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Vous faites partie de l'office de tourisme de Lourdes. Avant de parler de l'architecture de cette gare, un mot peut-être des raisons qui ont conduit à la construction de la gare de Lourdes.
Oui, alors cette gare, elle était mise en service en fait le 9 mars 1866, à peu près, un peu plus de 8 ans après la première apparition en fait à Lourdes. Donc, l'apparition mariale, en fait, est une des raisons qui ont fait que cette gare a été bâtie et donc que la ligne, en fait, s'est arrêtée à Lourdes. Initialement, ce tracé, en fait, Tarbes, Pau ou Pau Tarbes devait pas passer par Lourdes. Mais c'est vrai que voilà, quand ça a été décidé, donc, un an après les apparitions, bah, il paraissait judicieux d'envisager d'arrêter, en fait, d'avoir un arrêt à Lourdes. Et la seconde raison, c'est pour aussi les carrières qu'il y avait à Lourdes et aux alentours qui permettaient d'amener de la pierre pour différents usages, et notamment des usages qui concernaient effectivement l'extension des voies ferrées. Voilà. Donc c'est la seconde raison qui a fait qu'on a pu récupérer cet arrêt, cette gare à Lourdes.
Avant de parler de la fréquentation de la gare de Lourdes, un mot peut-être de l'architecture de ce bâtiment.
Alors, bon, historiquement, donc, on a été mis en service le 9 mars 66 par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. Donc, ça a été un bâtiment en bois, en fait. Donc, ça longeait par de simples trottoirs, en fait, entre les voies, voilà. Et il n'y avait pas énormément de voies à cette époque. C'était un peu étendu après. La première, en fait, locomotive à vapeur, donc, qui est rentrée à Lourdes, donc, c'était la locomotive à vapeur Ville de Béziers, qui, à l'époque, en fait, dépassait un tout petit peu les 60 km/h en fait, et rentré donc en gare le 27 mars 1966. Voilà, donc c'était la première arrivée d'un train à vapeur dans la gare de Lourdes. L'année qui a suivi, donc en 1867, la section donc Pau Lourdes est mise en service, bat son plein, et cette même année en fait, la Belle Parade de Bayonne en fait, entre guillemets, crée le premier train de pèlerinage, puisqu'il organise en fait un train spécial, et il amène à Lourdes en fait 700 pèlerins basques pour venir en pèlerinage sur Lourdes, voilà.
Orantin, vous avez donné la fréquentation entre 1913 et aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner cette fréquentation?
Oui, alors on imagine à l'époque, voilà, après les apparitions, le boom de Lourdes, donc de plus en plus de gens venant sur place, venant se rendant à la grotte et venant à Lourdes. Hein, donc ça correspondait aussi à l'époque des cures, à l'époque en fait du début du pyrénéisme, enfin de pas mal de choses, et les moyens de locomotion évoluant, donc le train arrivait en fait fortement. Donc en 1913, la gare de Lourdes en fait est la première du département, elle devance même Tarbes, et elle a plus d'un million de passagers en fait par an. Donc voilà, parce qu'on est sur un moyen de locomotion, on va dire pratique, alors qu'il est un peu long à l'époque, mais quand même pratique et principal pour se mouvoir. Bon, aujourd'hui on est plutôt dans les 450 000 on va dire passagers par an, mais parce qu'on a aussi développé, bah, forcément, voilà, de la voiture, du bus, de l'aérien, donc d'autres moyens de transport.
Cette gare qui était connectée avec les tramways, notamment le tramway de Lourdes.
Exactement, donc le tramway de Lourdes passait par la gare et descendait donc aller jusqu'à la grotte, allait aussi, je reliais aussi le pic du Gers, et bon, il y avait une partie qui allait aussi vers Manière du Bigorre, donc c'était assez bien desservi, assez important à l'époque. Donc ça a duré à peu près fin 1800, donc 1899 à début 1930.
Il y a un auteur aussi dans un ouvrage qui évoque la gare de Lourdes, c'est Zola.
Oui, alors bah, sur son fameux livre Lourdes, en fait, hein, Zola parle forcément un passage assez important et intéressant de la gare de Lourdes. Bon, voilà, avec la vision de Zola à l'époque et une vision, on va dire, assez subjective, qui a pas forcément plu à tout le monde et qui avait été un peu décriée. Bon, après voilà, faut imaginer cette gare. Quand on prend les images d'archives, c'est assez intéressant parce que on voit par exemple, si on la connaît aujourd'hui, on voit l'entrée de la gare avec voilà, bah, les parkings, les taxis, les voitures de location. Mais bah, à l'époque, on voit le devant de la gare avec toutes les voitures avec les cochers, à l'époque où il n'y a pas de voiture. De la même façon, tout le travail qui a été fait au fil des années pour les trains spéciaux, les trains de malades, hein, donc pour justement aider les malades en fait à descendre du train, à monter dans le train. Bon, ce que décrit un peu Zola d'une certaine façon dans son livre, mais ce qu'on peut voir aussi, les gens qui venaient, alors ça aussi on l'a perdu, peut-être que les routards d'il y a des années 60-70 se rappellent ça, mais quand on arrivait dans des villes, on avait souvent des gens qui venaient chercher avec des pancartes. Bon, à l'époque aussi, voilà, on venait chercher les voyageurs pour leur proposer des pensions de famille. On avait aussi des dames qui venaient pour les provisions, donc avec des paniers. Donc il y a des photos de dames avec des paniers en fait qui venaient vendre ou porter les provisions en fait pour les processions et pour les pèlerinages. Donc voilà, il y a pas mal d'images pittoresques de Lourdes en fait autour du ferroviaire et en relation avec cette gare.
Pour terminer, on peut peut-être redonner quelques dates clés. 9 mars 1866, donc la mise en service de la gare de Lourdes.
Exactement.
Le premier pèlerinage. On peut également donner la date.
Donc ça c'était en fait en 1867, donc le premier pèlerinage venant du Pays Basque.
La première voiture de train de malade également. Qui est...
Voilà, donc ça c'est en 1897 que les voitures en fait sont adaptées pour les malades. Et en 1908, pour le cinquantenaire des apparitions, c'est plus de 300 000 pèlerins qui convergent en fait vers Lourdes avec 525 trains spéciaux. Donc là on est vraiment sur voilà, un début de mouvement comme on a pu connaître et qu'on peut encore connaître sur les trains de malades et les déplacements. Voilà, à noter après que bon, on va pas faire toute l'histoire, mais c'est vrai que les phases de guerre 14-18, 39-45 ont aussi ramené en fait, ont accentué, on va dire, l'histoire du pèlerinage par le train. Et voilà, les gueules cassées venaient à Lourdes. Après 39-45, il y avait aussi pas mal de motifs et de raisons de venir. Et donc, voilà, le premier PMI est né de l'après-guerre. Enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires autour de la guerre.
Voilà pour la gare de Lourdes. C'était aujourd'hui notre arrêt pour ces balades en pays de Lourdes. Un grand merci Laurent de l'Office de Tourisme et on se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
Balade en pays de Lourdes en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
And now the end is near. So I face the final curtain.
my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself?
Bon appétit à l'écoute de Radio Présence, Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Dans un instant, direction Bourg-de-Bigorre avec Anne-Rose Jankovic pour découvrir une maison où vivent des personnes âgées en autonomie. La Marpa, c'est à écouter dans quelques instants. Auparavant, on peut compléter sur l'actualité régionale avec Émile Boudjema de l'école de journalisme de Toulouse. Bonjour Émile.
Bonjour à tous. Bientôt, la fin des travaux pour la grande rue Saint-Michel. Pour rappel, un nouveau système d'aménagement et une mobilité douce sont les principales choses prévues. C'est plus de 17 500 m² qui sont repensés, dont 1 600 m de pistes cyclables bidirectionnelles sécurisées et 2 000 m² de nouvelles plantations. Le principal objectif est de réduire le trafic motorisé de 9 000 à 3 000 véhicules par jour d'ici la fin de l'année. La fin des travaux est également prévue à cette date. Une autre avenue se permet aussi quelques travaux. L'avenue Étienne-Billière commence sa transformation depuis hier. Elle devait déjà être modifiée depuis janvier, mais a pris du retard. Les principales répercussions seront des places de stationnement supprimées jusqu'au 25 juillet, de nouvelles places de livraison et moto, mais également des places pour les personnes à mobilité réduite. Les premiers marquages ont déjà été tracés et le coût du chantier s'élèvera en tout à 1,5 million d'euros. Encore un nouvel achat pour Airbus. L'entreprise annonce hier avoir acheté 5 usines à un sous-traitant américain. Cela ne va rien lui coûter. Ça a déjà été annoncé en 2024, mais la compagnie Spirit AeroSystems, dont les activités sont déficitaires, va verser 439 millions de dollars à l'avionneur européen. Airbus s'engage néanmoins à fournir à Spirit AeroSystems des lignes de crédit sans intérêt d'un montant total de 200 millions de dollars qui seront utilisés par le sous-traitant pour soutenir les programmes d'Airbus.
Un appel particulier a été lancé dans le Lot, Émile.
Absolument, Jonathan, il s'agit d'un appel à la chorale. La chef de chœur Sandrine Antunes lance un appel aux chanteurs de tout poil pour la formation d'une chorale de 15 000 voix pour une prestation en mars 2026. L'objectif est de rendre hommage aux plus grands tubes du rock international comme ceux de Queen, AC/DC ou encore The Rolling Stones. Vous pouvez vous inscrire que vous soyez choriste débutant ou confirmé sur le site www.500voix.com. Toujours dans le Lot, le festival Escambis fête ses 10 ans, organisé par l'association Aquiloc. Il se tiendra au pays de Saint-Céré les 2, 3 et 4 mai. Le Festival Occitan a pour principal but de faciliter les échanges et les rencontres entre les intervenants et la population, d'où le nom Escambis. Tout public confondu peut se retrouver dans les domaines de la musique, le chant, la danse, l'artisanat, le sport, la littérature ou encore le théâtre. Samedi 3 mai, la communauté des Clarisses à Toulouse propose à toutes les femmes âgées de 16 à 35 ans une journée pour découvrir la spiritualité de Sainte-Claire. Cette journée sera également l'occasion de découvrir la vie contemplative de la communauté. Elle se déroulera de 9h à 17h30 au monastère des Clarisses de Toulouse.
Merci Emile Boudjema, retour de l'actualité dès 13h sur Radio Présence avec le journal national et international. Pour cela, on joindra par téléphone la rédaction française de Radio Vatican à Rome. Pour le moment, on retrouve Androse Jankovic en reportage dans le département des Hautes-Pyrénées, direction Bourg-de-Bigorre.
Bonjour Dominique Mas.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de la Marpa à Bourg-de-Bigorre, une maison où vivent des personnes qui sont âgées, mais qui sont tout à fait autonomes. Vous allez nous expliquer le fonctionnement de ce lieu. D'abord, peut-être nous expliquer le sigle, la Marpa, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Marpa signifie maison d'accueil et résidence pour l'autonomie. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est une résidence autonomie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes doivent être autonomes quand elles rentrent à la Marpa, pour qu'après on les aide à maintenir cette autonomie le plus longtemps possible, autonome ou semi-autonome.
Donc cette Marpa à Bourg-de-Bigorre, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'elle existe. Alors il faut quand même dire que des Marpas en France, il n'y en a pas énormément, et dans les Hautes-Pyrénées, il n'y en a pas beaucoup, c'est la seule.
Oui, on est la seule Marpa ici dans les Hautes-Pyrénées. Après, dans d'autres départements, on peut en trouver davantage. Mais il y a des départements où il n'y en a pas du tout.
Et comment vous expliquez ça ? Parce que le modèle, alors vous allez un peu nous expliquer en détail hein, la vie au quotidien ici, mais pourquoi c'est un modèle qui n'est pas plus répandu ?
Après, il y en a quelques-unes quand même. Il y a eu beaucoup de projets. On a eu beaucoup de visites hein, concernant des municipalités qui souhaitaient implanter ou réfléchir à un projet Marpa. Mais parce qu'ils étaient séduits hein, simplement par le style de vie qu'on pouvait proposer à nos aînés. Et en fait, ça n'a pas abouti. Alors, qu'est-ce que... et parce qu'il faut beaucoup de... Voilà, il faut beaucoup de force pour pouvoir présenter le projet, le représenter après face aux différentes entités qui financent. Et puis après, il faut que ce soit financé ou qu'il y ait des aides au financement parce que c'est quand même des structures, même si elles ne sont pas grosses, elles sont quand même importantes dans leur implantation.
Ici, ça a démarré comment ? Qui ou quoi a donné l'impulsion de ce projet pour construire à Bourg-de-Bigorre, au plein milieu des baronnies, une Marpa ?
Alors ici, c'est l'association Vivre en Baronnie qui existait donc dans les années 90. Alors je ne sais pas précisément, autour des années 90 en tout cas. Et peut-être même avant, puisque la première pierre ici, c'était 1992. Donc ils ont travaillé sur le projet au moins une bonne dizaine d'années avant. Donc vous voyez, ça redescend la date à 82. Donc je dirais que c'est cette association qui a réfléchi à cette idée de vouloir garder sur son territoire ses aînés, plutôt qu'ils soient éparpillés aux alentours de leur territoire, qu'ils restent sur leur terre. et de vivre avec une, ben, à leur façon aussi. Voilà, que ce soit pas la personne âgée qui adapte son mode de vie à la structure qui l'accueille, mais que ce soit l'inverse. Mmh. Que ce soit la structure qui l'accueille ou la maison qui l'accueille qui fasse et qui propose un mode de vie qui correspond à la personne âgée.
C'est-à-dire que ce sont des personnes qui arrivent à un âge où elles ne peuvent pas forcément rester chez elles, où elles sont autonomes, mais la solitude ou l'isolement peut être peut rapidement poser un problème, mais ce ne sont pas non plus des personnes qui ont le profil pour aller en EHPAD, qui n'ont pas besoin d'être en EHPAD.
Non, non. Non, plus maintenant en tout cas. Au départ, si on a commencé avec des personnes qui avaient un peu, il y avait tout profil. Et puis au fur et à mesure du temps, donc on est devenu résidence autonomie il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, donc on était foyer logement auparavant. Et donc c'est en 2020 qu'on est redevenu résidence autonomie. Et donc par ce fait-là, on délimitait un petit peu l'accueil à des personnes plus autonomes pour justement permettre à ceux qui vivent à l'intérieur de la maison d'être tirés vers le haut, si vous voulez, et de pas avoir cette, même si on a au travers de notre vie quotidienne des personnes qui perdent de l'autonomie, malgré tout, elles sont stimulées, puis il y a une solidarité entre les résidents, ce qui fait que il y a quelque chose d'assez joli et d'assez fin qui se construit aussi, même avec ceux qui perdent un peu d'autonomie. Alors après, il y a un maximum d'autonomie ou un minimum qu'on peut pas, voilà, où la personne ne peut plus rester ou parce que il y a des besoins accrus en personnel médical ou à une structure plus fermée. Voilà, il y a des choses qui peuvent enclencher l'orientation sur un autre mode d'hébergement.
Alors au quotidien, ça se passe comment, donc chaque personne a son appartement, son logement, mais il y a quand même des parties communes. Comment ça se passe au quotidien? Comment vous, en tant que responsable de cette MARPA, vous aidez les gens à faire la part des choses entre leur vie personnelle et puis les moments où ils sont invités à vivre avec les autres?
Mais en fait, c'est tout simple. Ils vivent comme ils vivaient à la maison, en fait. Donc, ils reconstituent ici, dans leur logement, leur vie d'avant, avec leur mobilier, leurs affaires personnelles, etc. Ce sont des logements locatifs. Et après, à partir de là, ils viennent vers le collectif ou ils ne viennent pas vers le collectif.
Ce n'est pas une obligation. En arrivant, ils ne s'engagent pas à prendre les repas tout le temps avec tout le monde.
Non. Il y a au moins, ils sont invités quand même à prendre un repas sur la journée, c'est essentiellement le repas de midi. Ouais. Pourquoi? Parce que l'important, c'est quoi? C'est aussi le lien social. Que le but, c'est bien sûr, il y a la sécurité alimentaire, la sécurité de logement, ne pas avoir d'escalier à monter. Il y a ce côté sécuritaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui fait partie des besoins fondamentaux. Hein, c'est le lien social. Donc, avec ce que ça implique. Donc, la vie de groupe, avec ses hauts, ses bas, mais avec cette possibilité, quand on en a marre d'être avec le groupe, on se met en retrait, on va dans sa petite bulle, dans son logement. Voilà.
Alors, par exemple, pour les choses très concrètes, quand je suis arrivée tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a dit, aujourd'hui, moi, j'ai pas épluché les légumes, mais des fois, j'épluche les pommes de terre. Ça veut dire qu'il participe aussi. Il n'y a pas le personnel ne vient pas faire les repas, repartir et voilà, il y a faire avec.
Oui, absolument. Et ça fait partie, en fait, du projet d'établissement, ça. C'est-à-dire, on fait comme à la maison. C'est-à-dire qu'avant, quand on épluchait, on faisait des choses ensemble, on préparait le repas ensemble. C'est la même chose ici. Mmh. Alors, évidemment, c'est pas imposé non plus. Ouais. C'est selon leur envie. Voilà. Donc, il y en a certains qui vont mettre la table. On a un monsieur qui met la table, une dame qui va mettre le vin, va poser les bouteilles de vin à chaque place de manière très personnalisée. On a une dame qui va plier du linge MARPA, c'est-à-dire des lavettes, des essuie-mains, ce genre de choses. Après, ils peuvent aider à éplucher les patates, à couper le pain, enfin, à faire des crêpes, à faire des merveilles. On a fait des merveilles la semaine dernière. Mais voilà, on propose, ils disposent.
Et vous, votre rôle en tant que responsable de la maison, c'est de coordonner tout ça. Quel est votre quotidien à vous?
Et bien, c'est en fait ça. Oui, effectivement, c'est un peu chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on coordonne les interventions, on coordonne la vie de la maison du mieux qu'on peut, avec l'aide d'une équipe qui est une belle équipe dynamique. Alors, ce sont des agents sociaux. On est entouré. J'ai une adjointe, Magali. Qui est là depuis le début aussi. Voilà, on est un vieux couple.
Depuis plus de 30 ans.
Voilà, elle est arrivée quelques mois après moi. Mmh. Et après, on s'est entouré au fur et à mesure, tout le long de ces années, d'agents voilà, avec leur personnalité, qui amène aussi, chacun amène sa couleur, hein, à la vie de la maison, avec sa dynamique ou sa discrétion, vous voyez. Et puis chacun, finalement, chaque résident va trouver, au travers de l'équipe en place aussi, son petit jardin, hein, de relations, en fait.
Alors aujourd'hui, il y a combien de résidents, et est-ce qu'ils viennent tous des baronnies, ou est-ce que c'est un modèle qui a fait venir des gens qui habitaient un peu plus loin et qui ont, ben voilà, qui se sont dit qu'ils allaient être bien ici?
Alors essentiellement, oui, des baronnies ou des petits coins limitrophes, enfin des régions limitrophes, enfin des régions, hein, des territoires limitrophes aux baronnies. Mais il y a aussi des rapprochements géographiques, c'est-à-dire qu'il y a des familles implantées dans les baronnies, et du coup les parents qui étaient dans le Lot, ou qui étaient, tout à l'heure on en parlait avec monsieur l'évêque, en Bourgogne, et du coup ils se rapprochent de leurs enfants ou petits-enfants.
Donc ils se déracinent de là où ils ont passé toute leur vie pour venir ici. Et ça se passe bien.
Et ça le fait. Mais ça le fait pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la famille.
Ouais.
Et après, il y a la personnalité de la personne aussi qui intègre la MARPA, hein, qui fait que, ben oui, ils ne sont pas forcément du rural, mais il y a quand même des racines chez eux aussi, même s'ils étaient en Bourgogne ou dans le Lot, ou l'Aveyron. Ils ramènent un peu d'eux et de leur région avec eux, en fait.
C'est ça.
Donc, ça, c'est riche aussi pour les autres. Voilà, et chacun s'amène, chacun échange et partage ce qu'il est dans la vie qu'il a vécue avec son environnement.
Alors, puisqu'on parle de la famille, donc à l'extérieur, hein, de cette maison, mais dans les villages alentours, ça veut dire que finalement l'autonomie permet aussi un lien très facile avec le monde extérieur. Ils ne sont pas là en vase clos. D'ailleurs, certains ont leur voiture, je crois. Donc, il y a aussi ce contact avec le monde autour qui est entretenu et qui est facile.
Oui, complètement. Mais ils sont libres. En fait, nous, la seule chose qu'on leur demande, c'est de nous dire où ils partent. Et quand ils partent, de manière qu'on ne s'inquiète pas. Mais après, ils font... voilà. C'est leur point de chute, leur petit nid, si. Voilà.
Alors, quand on parle du lien avec le monde extérieur, il faut dire aussi que les résidents de la MARPA peuvent sortir, aller se promener. On a bien compris, ils sont vraiment autonomes. Mais il y a aussi du monde qui passe à la MARPA, et pas seulement des infirmiers.
Non, il y a beaucoup de monde, oui. Alors, je parle notamment de l'école de Bourg-de-Bigorre, hein, que l'on voit régulièrement, mais pas que.
Pardon, mais les élèves viennent ici, les enfants viennent ici?
Régulièrement. Régulièrement, ou même les résidents sont invités aussi à aller à l'école lors de moments particuliers, comme la fête de fin d'année, par exemple. Mais après, toutes les trois semaines, en fait, on a des rencontres avec la MAM, la maison des nounous de Tillouse, qui, alors, une fois c'est ici, une fois c'est à la maison des nounous, et une autre fois à la Marotte, parce que le CIAS qui gère la MARPA gère également la Marotte, qui est un habitat inclusif à Tillouse, qui habite des résidents aussi là-bas, mais qui vivent plus. Il y a pas de partie, il y a une partie collective, mais il y a moins d'activités collectives, si vous voulez. Mais nous, on est en lien avec eux aussi, ce qui fait que nos résidents rencontrent et des petits et des personnes d'un certain âge ou pas d'ailleurs sur la Marotte. Et il peut aussi y avoir le lycée Victor Duruy. Depuis la rentrée, on a un projet en commun avec le Victor Duruy à Bagnères.
Oui, alors, vous pouvez nous expliquer un peu le projet?
Et alors, ça, c'est un projet qui s'appelle Tandem et qui a été élaboré par deux jeunes professeurs du lycée, c'est-à-dire d'une filière donc médico-sociale, c'est-à-dire des jeunes qui voudraient faire travailler auprès des personnes âgées. Voilà. Et donc, ils viennent à peu près, on va dire, une fois par mois, passer une journée. Donc, pour proposer, eux, ils proposent des activités, notamment massage de main, faire du dessin, un peu d'atelier manuel. Et le matin, c'est suivre un peu l'équipe, voir ce que fait l'équipe en termes de transmission, comme une formation, en fait. Et l'équipe transmet ce qu'elle fait ici, c'est-à-dire et la partie animation, et la partie cuisine, et la partie entretien des locaux en complément de ce que fait le résident. Voilà, c'est une transmission, hein, en fait, de savoir. Et après, bien sûr, l'échange entre les résidents Et les jeunes, c'est...
Ça, avec les tout-petits, ça doit être formidable.
Oui. Et même les plus grands, là, c'est des jeunes adolescents, c'est des vrais pépites, c'est pépites, des moments pépites.
Voilà. Alors, vous sentez, alors vous observez un petit peu tout ça, qu'est-ce qui se joue là? Parce que c'est important pour les jeunes, mais c'est important aussi pour les personnes plus âgées, ce lien-là, ce contact. Ils se découvrent, ils apprennent des choses. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges-là?
Eh bien, il ressort beaucoup de complicité, en fait. Ouais. Parce que ben, ils se font rire mutuellement. En fait, de voir des résidents, de voir la jeunesse en face qui réagit à des choses, et puis que les jeunes, de voir les personnes d'un certain âge aussi avoir leur propre caractère aussi, et puis se défendre de telle ou telle chose, c'est de la complicité, vraiment, une jolie complicité.
Alors vous, là, vous coordonnez aussi toute cette partie-là. Vous devez sans cesse trouver de nouveaux projets, de nouvelles idées pour que eh bien, les résidents puissent toujours être un petit peu dans le dynamisme de quelque chose de nouveau.
Oui, alors là, c'est sur l'aspect intergénérationnel. Mais ça peut être avec d'autres. On a eu travaillé aussi avec le lycée de Massum. Et régulièrement, hein, d'ailleurs, on travaille avec des collèges ou des lycées. Voilà. Après, on accueille pas mal de stagiaires aussi de formation médico-sociale. Ça peut être conseillère ESF, BTS ESF, économie sociale et familiale. Et ensuite, nous coordonnons aussi des activités de l'ordre du maintien de l'autonomie, c'est-à-dire c'est un forfait autonomie qui est donné aux établissements comme les résidences autonomie pour créer des activités qui permettent le maintien de cette autonomie.
C'est-à-dire, par exemple,
là actuellement, on a de la bibliothérapie. Par exemple, c'est un espace de discussion autour de thèmes par un intervenant extérieur et qui les fait voyager, en fait. Donc ça peut être dans des régions de France ou même dans des pays, il n'y a pas très longtemps, c'était sur la côte amalfitaine, par exemple. Et une autre séance, ça peut être sur les oiseaux. Après, nous avons aussi de la gym douce et du yoga, mais ça, c'est intégré dans le fonctionnement de la maison parce que c'est deux activités qui marchent très bien. Ouais. Et après, dans le forfait autonomie, on a une animatrice qui vient une fois par semaine pour proposer différentes choses. Ça peut être des jeux mémoire, ça peut être des chansons, ça peut être de l'atelier manuel, ça peut être faire des bouquets de fleurs pour la fête du printemps.
Mais tout ça, ce sont toujours des propositions, des suggestions, mais pas des obligations.
Non, toujours. Non, vraiment. Tout ce qui est mis en place ici, en fait, c'est proposé, et c'est ce qu'on voulait, en fait, qu'il y ait un maximum de choses proposées pour que chacun y trouve un peu sa petite place dans une animation qui peut lui plaire.
Est-ce que eux-mêmes peuvent être force de proposition, dire bah écoutez, nous on verrait bien ça, on a envie de ça?
Oui, tout à fait. Et puis ils le sont aussi au travers de l'association des familles que nous avons, une association des familles amies qui s'appelle les Copains de la Marpa et qui organise, qui recueille aussi avec nous toutes les propositions des résidents et puis après les met en forme, il les met en place suivant les moyens et puis quitte à chercher des moyens aussi. Donc avec notamment faire des lotos, faire un voyage à Lourdes, faire des pique-niques autour de tel lac. Enfin, y a plein de propositions qui émanent de nos résidents, oui.
En fait, le secret de cette maison, c'est peut-être qu'elle ne fonctionne pas seule, enfin, que les liens avec tout ce monde extérieur qui sont des collègues ou des collaborateurs, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez, mais finalement, c'est ça la clé de la réussite, c'est de ne pas faire seul, de ne pas rester en vase clos, quoi.
Absolument. Non, on ne fait rien seul. Ça, c'est une évidence. Une évidence, et les 30 ans les 30 ans passés le prouvent. C'est que cette MARPA, c'est les résidents, c'est nous, c'est les intervenants, c'est tous les partenaires avec qui on travaille au quotidien qui font que la communauté des communes, le CIS et les gestionnaires, tout simplement, et les bénévoles qui sont aussi... dans les environs, qui donnent de leur temps pour les résidents.
Donc 22 résidents aujourd'hui, une liste d'attente, on imagine?
Oui.
Tout le temps. Elle n'est jamais vide, cette maison. Il n'y a jamais d'appartement vide.
Non, ça arrive rarement. Ça arrive rarement.
Depuis 30 ans que vous êtes, plus de 30 ans que vous êtes ici, Dominique Mas, donc au service de ces personnes au sein de la MARPA, qui est-ce qui a changé, qui a évolué? Qu'est-ce que vous avez pu constater du fonctionnement de ce modèle-là, en tous les cas?
En fait, il y a pas mal de choses qui a changé, mais vraiment essentiellement, beaucoup de choses sont restées en l'état. En fait, on reste toujours un lieu. Enfin, en tout cas, on le souhaite comme ça. Mais je pense que les résidents qui intègrent la maison, c'est ce côté convivial. Ouais. C'est pour ça que je vais plus rester sur ce qu'on a gardé plutôt que sur ce qui n'y est plus. C'est la convivialité et puis le partage et la richesse avec les partenaires avec qui on travaille aussi. que ce soit la CCPL, que ce soit la mairie du Bourg-de-Bigorre ou les mairies environnantes, que ce soit les infirmiers libéraux aussi, puisqu'après, chaque résident, en fait, a son infirmier libéral, son pédicure, son kiné. Bon, après, c'est des kinés, des cabinets du village ou pas très loin. Mais même ces partenaires-là ont cet élan de vie convivial et chaleureux où le partage, où le lien, voilà. C'est le respect, en fait, des histoires des uns et des autres et des métiers des uns et des autres et la complémentarité. Et
du coup, la MARPA est aussi un lieu où toutes ces personnes et tous ces métiers se croisent ?
Oui. Oui, oui.
Ça fait de la MARPA vraiment un élément du paysage économique, sociologique des baronnies.
Oui, 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 oui.
Au tout début, vous nous avez expliqué donc c'est l'association Vivre en Baronnie qui a été à l'initiative de la création de la MARPA. Aujourd'hui, c'est le CCAS qui porte la
suite. De suite, assez rapidement, c'est le CCAS qui a dû prendre la suite. Donc depuis 30 ans, c'est le CCAS qui a apporté la construction, enfin pas la construction, mais en tout cas la poursuite du projet MARPA et qui fait la gestion depuis 30 ans. C'est le CIAS.
Donc pour vous, ça c'est aussi un appui ?
Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pourriez dire, pour terminer, peut-être aux auditeurs qui découvrent, là, qui ne connaissent pas du tout ce modèle de MARPA, et pour cause, dans les Hautes-Pyrénées, c'est le seul lieu, dans les baronnies. Voilà, alors peut-être, parmi les auditeurs, il y a des personnes qui travaillent dans des lieux un peu similaires, mais pas tout à fait, ou qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les conforter sur ce modèle de la MARPA, peut-être pour les convaincre des bienfaits d'un modèle comme celui-ci.
Mais en fait, si s'ils veulent trouver du lien et du côté personnalisé, le côté amitié, voilà. Enfin, l'amitié est quelque chose d'important en tout cas ici, et on travaille pour eux. Mais ça va au-delà. Il y a quand même c'est l'amitié, quoi, qui lie, en fait.
C'est ça que vous aimez dans votre métier.
Oui, 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 oui. Oui, c'est pas des monsieur, madame ou des numéros. C'est vraiment c'est des personnes à part entière. Enfin, c'est bête de dire ça, mais vraiment c'est des personnes avec qui on vit. Voilà, c'est du vivre ensemble complètement ici.
Merci beaucoup Dominique Masse. Donc merci de nous avoir reçus au sein de cette MARPA à Bourg-de-Bigorre dans les Baronnies. Merci de nous avoir expliqué le fonctionnement de cette maison.
À bientôt, merci à vous de nous avoir rendu visite.
Voilà, et merci à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé donc ce reportage. Nous étions, vous l'avez compris, à Bourg-de-Bigorre. Ça se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées. Bon appétit, bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Présence et de Présence Midi. Dans moins de 10 minutes, c'est le retour de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
Présence. said I'm not gonna tell nobody. But I
keep it to myself.
But
I keep it to myself.
I said I'm not gonna tell nobody. But
I keep it to myself. What the Lord.
À Tarascon sur Ariège, 100.2.
Vous avez des questions concernant votre foi, les évangiles, la position de l'Église sur telle ou telle question? Un prêtre est à votre écoute. Tous les dimanches soirs, de 21h à 22h30, dans l'émission Un prêtre vous répond. N'hésitez pas à téléphoner dès 20h45 au 01 56 56 44 00. Votre question sera prise en compte.
En ce jour, chantons, dansons, vers lui nos louanges monteront. En ce jour, chantons, dansons, vers lui nos louanges monteront. Annoncer ses merveilles, témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps. Raconter ses hauts faits, partager son amour, fêter-le jour après jour. Cœur vibrant de foi, ouh oh oh eh oh, son un cri de joie, ouh oh oh eh oh, monte une ovation, ouh oh oh eh oh, en ce jour chantons pour son nom. En ce jour chantons, dansons, vers lui nos louanges monteront. Annoncer ses merveilles, témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps. Raconter ses hauts faits, partager son amour, fêter-le jour après jour. Nos cœurs vibrants de foi, ouh oh oh eh oh, sont un cri de joie, ouh oh oh eh oh, monte une ovation. Témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps. Raconter ses hauts faits, partager son amour, fêter-le jour après jour. Nos cœurs vibrants de foi, ouh oh oh eh oh, poussons un cri de joie, ouh oh oh eh oh, que monte une ovation, ouh oh oh eh oh. Cœur vibrant de foi, ouh oh oh eh oh, son un cri de joie,
Présence à Belmont-sur-Anse 93.1
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Il y a 8 jours, François retournait à la maison du Père. Dans 8 jours, un nouveau successeur de Pierre sera choisi par les 135 électeurs du Sacré-Cœur.